Bonsoir à vous tous, merci d'être présents chez Filigrane aujourd'hui. Une annonce pour vous signaler la rencontre littéraire qui débute à l'instant à l'Espace Bar. N'hésitez pas à venir nous y rejoindre pour rencontrer, pour écouter notre invité du jour, à savoir Pascal Bruckner, suite à la parution chez Grasset de son nouveau livre, un essai. Ce n'est pas un roman cette fois-ci, c'est un essai. Un essai intitulé « Le mariage d'amour a-t-il échoué ?» Eh bien, pour connaître la réponse, nous avons le plaisir de recevoir Pascal Bruckner. Pascal Bruckner, bonsoir. Alors, le mariage d'amour a-t-il échoué? La réponse est désenchantée, car nos ancêtres faisaient des mariages imposés, ils étaient désenchantés. Ceux d'aujourd'hui ont fait des alliances volontaires, on est toujours désenchantés. Bref, Pascal Bruckner, quoi qu'il arrive, on est désenchanté face à l'amour.
Non, il n'y a pas de désenchantement, mais je pose une question à laquelle je ne réponds pas. Et les gens divorcent de à peu près 2 divorces sur 3 dans les grandes villes, 1 sur 2 dans tout le pays. Les taux sont à peu près stables dans tout le monde occidental, donc ça prouve que c'est une institution qui dure à travers un taux de perte important, un peu comme une armée qui aurait de la peine à recruter des nouveaux soldats et qui en plus perdrait la moitié de ses troupes. Donc voilà l'état du mariage aujourd'hui, mais ça n'est pas désenchanté, c'est simplement, comme vous le disiez vous-même, le mariage bourgeois qui a duré de 1850 à 1950 a suscité une haine et une fureur sans pareil parce qu'il était oppressif et qu'il écrasait les femmes et enfermait les époux dans un étau. Le divorce n'était pas permis, ou en tout cas il était difficile. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de haine contre le mariage, il y a une désaffection. Les gens ne se marient plus, ils se paxent, ils vivent en union libre, en concubinage. Et c'est ce phénomène de désaffection que je trouve intéressant d'étudier.
Alors, on étudie toujours le présent par rapport au passé. Dans le passé, il y avait la pudibonderie. Aujourd'hui, il y a la jouissance obligatoire. Dès lors, parce qu'à Bruckner, les couples ne meurent pas dans l'égoïsme ou le matérialisme comme on l'entend souvent aujourd'hui. Mais finalement, ils meurent d'un héroïsme fatal, le tout en un. On en veut trop aujourd'hui.
Oui, effectivement, autrefois, l'amour et la volupté étaient bannis du mariage. Il était même recommandé dans l'Ancien Régime de ne pas aimer son épouse. Il y a une phrase célèbre dans La Princesse de Clèves, où Monsieur de Clèves, sur son lit de mort, dit à sa femme « Il m'eût paru inconvenant de vous déclarer ma flamme ». C'est-à-dire que c'était même une obscénité pour un noble dans l'Ancien Régime de dire à son épouse qu'il l'aimait. Parce que on se mariait pour des raisons économiques, financières, pour transmettre un nom. Et quant au plaisir amoureux, il était là aussi banni. On s'accouplait pour faire des enfants et pour le reste, on désirait ailleurs. Les femmes de la cour avaient des amants, les hommes avaient des maîtresses. Et l'idée que le mariage soit le lieu de l'amour et du désir est une idée qui a à peine un siècle, lorsqu'on s'est aperçu que au XIXe siècle, que le mariage bourgeois, qui était fondée malgré tout sur une certaine affection des époux, que le mariage bourgeois avait pour conséquence l'explosion de l'adultère et de la prostitution. L'adultère parce que les femmes n'étaient pas considérées comme des êtres désirables, c'était des reproductrices. Donc la femme était tellement pure, tellement parfaite, qu'on en oubliait qu'elle avait un corps. Et la nuit de noces était un événement effroyable, hein, et je pense que ça a été le cas en France jusqu'au début des années 60. Les femmes arrivaient sans aucune connaissance des mécanismes du plaisir, et donc la nuit de noces était l'effondrement des illusions, la brutalité, le viol consacré. Et par conséquent, le fait que les femmes ne soient pas considérées comme des objets de désir faisait que les maris allaient au bordel pour satisfaire leurs pulsions. Explosion de la prostitution au XIXe siècle, il y a là-dessus, toute la littérature en parle, Balzac, Zola, les préfets de police aussi réglementent les maisons de passe. Vous avez une expression célèbre faite par le préfet de Paris en 1830, Parent du Châtelet, qui explique que la prostitution c'est la voirie amoureuse de la France, et qui parle d'égout séminal. Et donc, par conséquent, il dit, pour que les familles tiennent, il faut absolument organiser le commerce du plaisir. Et puis, les femmes cloîtrée chez elle, soumise à la tutelle du mari, c'était le code Napoléon, et bien, puisque leur mari les honorait brièvement pour avoir des enfants, prenaient des amants, quand elles le pouvaient. Si elles étaient prises, on les envoyait dans des institutions, on les enfermait, ce qu'on appelait, c'était l'institution de la prise de corps, où elles étaient mises avec les folles et les filles de joie, où elles expiaient parfois pendant 10-20 ans un écart avec un amant, et c'était la multiplication, c'était la grande hantise du 19e siècle, c'était les bâtards. C'est-à-dire que si votre femme avait fauté avec votre voisin ou un amant, elle avait des bâtards, et à ce moment-là, c'était la pureté de la lignée qui était compromise. Et pour corriger ces deux fléaux, prostitution et adultère, les gens les plus éclairés, les féministes, les anarchistes, les républicains, les réformateurs, ont imaginé de réunir dans le mariage ce qui en avait toujours été exclu, à savoir l'inclination réciproque. Il est préférable qu'un homme et une femme se marient par amour. Et puis la prise en compte du corps des femmes. Alors le corps des femmes devient un objet d'études médicales au XIXe siècle, notamment Charcot, avec ses études sur l'hystérie, comprend que l'hystérie, maladie de l'utérus, vient peut-être d'une insatisfaction féminine. Freud introduit l'idée d'une sexualité féminine. Et puis petit à petit, donc, on rentre dans une institution qui va ressembler à ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire où on privilégie l'amour et le désir. Mais tout ça ne se mettra véritablement en place que dans les années 50. Disons, nos parents ou nos grands-parents se marient par amour et considèrent qu'effectivement, une satisfaction réciproque est préférable à une frustration réciproque. Et ce mariage d'amour, donc, s'instaure véritablement en 1960, parallèlement avec la libéralisation du divorce. Le résultat, c'est que, effectivement, le mariage perd de son aura. Il est concurrencé par l'union libre, le Pax et le concubinage. Et le divorce, évidemment, est utilisé plus fréquemment.
Mais le résultat également, Pascal Bruckner, c'est que la barque des mariés est de plus en plus lourde, de plus en plus surchargée avec cette jouissance, puisqu'il faut être l'homme ou la femme parfaite, le père parfait, la mère parfaite, l'homme d'affaires parfait, la femme qui travaille parfaite. Bref, c'est ça aussi qui est un peu dénoncé aujourd'hui, cette jouissance perpétuelle, qui rappelle finalement un livre que vous aviez écrit il y a 10 ans, l'euphorie perpétuelle par rapport au bonheur, comme s'il fallait absolument être heureux à 100% et être parfait amoureux à 100% aussi.
Oui, alors c'est la contrepartie de notre des conquêtes des années 60, c'est-à-dire que la libération a un versant qui n'est pas un versant forcément euphorique, justement. Contrairement au mariage de raison, le mariage de sentiment, celui sur lequel nous vivons aujourd'hui, arrive avec une attente, qui est une attente démesurée, c'est-à-dire que les époux s'installent ensemble dans l'idée que la vie qu'ils vont mener l'un et l'autre doit être et ne peut pas être autre chose qu'une vie intense, et intense en permanence. Et par conséquent, donc, on attend de son partenaire un bonheur en continu, une joie sans temps mort et une jouissance sans entrave, pour reprendre un slogan célèbre. Cette espérance-là, si elle est déçue, eh bien elle va plonger le couple dans le désarroi. Si effectivement la vie n'est pas une fête jour après jour, et de plus en plus, on va penser qu'on est en quelque sorte défaillant, et que par conséquent, le partenaire avec lequel on se trouve n'est pas le bon. Et donc, effectivement, nos couples meurent d'héroïsme, c'est-à-dire qu'ils ont d'eux-mêmes une vision totalement idéalisée. Ils pensent que l'entrée dans l'institution du mariage doit être synonyme d'une vie en altitude. On entre à ce moment-là dans la mystique des points culminants. On ne tolère pas de l'autre, on ne tolère pas de soi-même d'avoir des moments de vie, d'avoir des moments où l'amour bat de l'aile, de connaître ces instants insignifiant de l'existence qui arrive toujours. Et c'est pour ça que je dis qu'à mon avis, le grand problème aujourd'hui, ça n'est pas le consumérisme, le matérialisme ou l'égoïsme, comme on le dit fréquemment, c'est un idéalisme meurtrier.
Justement, finalement, quand on pose un idéal, on engendre immédiatement des milliers d'inadaptés, et ce, dans tous les domaines, par rapport à l'idéal.
Oui, c'est comme... À partir du moment où le mot d'ordre de notre société, c'est le bonheur, soyez heureux ou disparaissez, et bien la plupart des gens disparaissent effectivement. L'idéologie du bonheur suscite cette maladie contemporaine par excellence qu'est la dépression, puisque ceux qui n'arrivent pas à être heureux en continu connaissent un effondrement intérieur. De la même façon, l'idéal d'un amour intense suscite une interrogation et un désappointement chez de très nombreuses personnes, dont témoigne d'ailleurs la littérature. Et je remarque avec étonnement que la littérature sentimentale contemporaine, sauf si on parle évidemment des romans roses, qui eux se vendent très bien, mais disons les bons romans contemporains sur l'amour ne sont pas moins cruels et ne sont pas moins dubitatifs que ne l'était la littérature classique. Vous lisez Proust et Albert Cohen, vous lisez aujourd'hui Kundera, Marguerite Duras ou Houellebecq, et vous avez toujours cette, non pas tant cette déception, mais en tout cas cette interrogation sur les bienfaits de l'amour. Et l'on montre effectivement l'amour, la vie amoureuse dans toute sa complexité, merveilleuse, mais aussi redoutable et parfois d'une cruauté sans frein.
Voilà. Il y a la réponse littéraire, puisque vous évoquez pas mal la littérature dans votre essai, justement expliquant que finalement les plus grands romans d'amour souvent étaient contre l'amour. Puis il y a aussi parfois les réponses un peu plus humoristiques quand on fait des enquêtes. Par exemple, mon amour, c'est la crise, si on divorçait, les Français répondent oui, les Anglais plus tard.
Oui, alors voilà, ce livre est né aussi de la lecture d'une longue enquête dans un magazine, où une journaliste montrait qu'en France, et je pense dans les pays latins, les gens n'hésitent pas à divorcer en dépit de la crise. C'est-à-dire les gens, et surtout les femmes, n'hésitent pas à se mettre en danger financier, économique, en dépit d'une précarité déjà existante. Alors que dans les pays anglo-saxons, beaucoup plus axés sur l'argent, les couples sursoient à leur séparation parce que la valeur des biens qu'ils possèdent en commun a fondu. Et donc, quand ils possèdent une maison à deux et que le prix de la maison a baissé de moitié, ils disent, bon ben, on va encore se supporter pendant un an. Et puis, dès que ça remonte, on se sépare. Et effectivement, mais en même temps, c'est une situation qui n'est pas... Alors, une situation qui peut peut-être raccommoder certains couples en bisbille, mais une situation qui n'est pas non plus très glorieuse, puisque on a d'autres cas de couples qui restent ensemble parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre un autre appartement, et la vie à deux devient une espèce d'enfer effroyable où l'on doit supporter la vision de l'autre tout simplement parce qu'on n'a pas l'aisance financière pour le quitter.
Et c'est peut-être parfois dans ces moments-là qu'on fait appel à des spécialistes, des coachs, des thérapeutes, ce qu'on peut appeler, ce que vous appelez le commerce des désaccords, que vous dénoncez également à travers cette réflexion.
Oui, enfin, je ne le dénonce pas, mais je considère avec ironie, parce qu'effectivement, l'amour comme le bonheur d'ailleurs, suscite un marché gigantesque, qui est le marché des béquilles, hein. C'est-à-dire on a libéré l'amour en croyant que les choses allaient se passer merveilleusement bien, puis on n'a jamais vu proliférer autant de coachs, d'assistants, de thérapeutes, de psys qui viennent en quelque sorte raccommoder nos amours blessés. Et je remarque que la plupart du temps, il y a d'ailleurs même des séries américaines là-dessus, la plupart du temps, ces bons docteurs ou ces bonnes doctoresses nous donne des conseils qui étaient déjà ceux de nos grands-mères. Moi, je me souviens très bien de ma grand-mère parlant à ses filles ou à ma mère pour essayer d'apaiser les tensions qui étaient dans les couples de nos aînés. C'était, parlez-vous, faites des compromis. En général, d'ailleurs, les compromis étaient plutôt du côté des femmes que des hommes. Partez en voyage, prenez vos distances, ferme les yeux, ne regarde pas trop ce qu'il fait. Et en réalité, très souvent, ces coachs font la même chose. Je me souviens de l'année dernière, un numéro spécial de Psychologie Magazine qui s'appelait « Réveillez votre désir ». Alors déjà, je trouvais ça drôle qu'on nous explique qu'il fallait réveiller son désir, parce que s'il dort, à quoi bon le réveiller? Après tout, l'assoupissement, c'est aussi une option dans la vie à deux. Et alors, les conseils étaient désarmants de naïveté. Il fallait manger des framboises. Alors, je ne savais pas que la framboise avait des vertus érotiques. Du chocolat, bon, pourquoi pas, ça fait pas de mal. il fallait aussi se masser, se caresser, être à l'écoute de l'autre. Au final, ce sont des choses que chacun sait de lui-même. Mais évidemment, ce qui a changé, c'est que ces conseils qui étaient prodigués gratuitement le sont moyennant, effectivement, tout un rituel extrêmement coûteux. Mais après tout, si les bobos d'amour font marcher le petit commerce, il n'y a aucune raison de s'en priver. Voilà, c'est toutes les options sont ouvertes et aujourd'hui, le marché s'étend partout, y compris dans la psychologie des couples.
Est-ce qu'on fait de plus en plus de contrats aujourd'hui par rapport à avant? Je veux dire, les contrats de mariage, tout est sous contrat pour éventuellement les changer très rapidement, puisqu'en Angleterre aussi, il y a des listes de divorces aussi aujourd'hui pour aider les gens à recommencer dans la vie. Est-ce que tout est devenu contrat dans tous les domaines, que ce soit l'amour, l'amitié?
Non, je crois que au contraire, dans l'Ancien Régime, ça il suffit de lire les auteurs du 19e siècle ou du 18e, dans l'Ancien Régime, tout amour était d'abord un contrat qui était sanctifié par le sacrement de l'Église, mais les familles unissaient leurs enfants après avoir quand même couché devant notaire des contrats extrêmement rigoureux. La dot, combien vous allez nous donner, qui va payer la cérémonie du mariage. On a complètement oublié cet aspect de notre histoire qui est fondamental. Alors, le pari du mariage d'amour a été au contraire d'aller par-delà le contrat, c'est-à-dire que le sentiment emporte tous les accords écrits ou non écrits qu'on pouvait faire, notamment les accords économiques. Mais on se rend compte que même dans un mariage de passion, il y a un aspect commercial ou financier qu'on a tendance à gommer. Juste un exemple. En France, l'actuel gouvernement veut supprimer les avantages fiscaux liés au mariage. Or, que se passe-t-il? La gauche, les associations familiales catholiques et autres protestent avec vigueur au motif que finalement, on va décourager les jeunes gens de se marier. Alors, si le mariage n'est que d'amour, pourquoi protester? Puisqu'après tout, on ne se marie pas pour avoir des avantages fiscaux. Donc, ce qui prouve bien quand même que, même à travers les sentiments les plus éthérés, les plus purs, il y a forcément de l'intérêt. Et pour une raison simple, quiconque l'a vécu le sait, l'amour et la pauvreté ne font pas bon ménage. Quand vous tirez le diable par la queue, les effusions les plus romantiques ont un goût amer. Hein, il faut boucler les fins de mois. Et quand en plus un enfant intervient dans le ménage, ça risque très vite de devenir infernal. Par conséquent, effectivement, même aujourd'hui, dans nos amours, il y a effectivement de la tendresse, de l'affection, mais il faut aussi pouvoir vivre décemment. Donc la question financière n'a pas du tout disparu.
Finalement, l'amour qui dure, c'est l'amour des mots. Vous donnez votre réponse avec un excès aujourd'hui. Le mariage d'amour a-t-il échoué? Vous auriez pu donner également une réponse en tant que romancier, puisque vous êtes également romancier. Vous alternez les romans, les essais. On se souvient surtout de Lune de Fiel qui avait été portée au cinéma par Polanski. Est-ce que le romancier aussi est intéressé par cette question? Le mariage d'amour a-t-il échoué?
Oui, moi j'en ai fait déjà pas mal de livres. J'ai fait Lune de Fiel, j'ai fait Mon petit mari. Mais je pense qu'il y a une réponse qu'on peut donner, mais c'est pas une réponse, c'est une direction. C'est que, au fond, il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour qui veut brûler, c'est l'amour passion qui se moque de durer une journée, un mois, un an, du moment que l'intensité des sentiments et des ardeurs soit présente. Et puis il y a l'amour qui veut durer. Et à partir du moment où l'amour veut durer, vient un moment inévitable où la passion se transforme en acte, en action, et où par conséquent il faut convertir le coup de foudre au temps, il faut convertir l'éternité de la rencontre au temps. Et donc je pense qu'à ce moment-là, le cœur et la raison doivent aussi d'une certaine façon se réconcilier, et la raison doit venir au secours du cœur pour le protéger de lui-même et de ses propres emballements, et surtout de sa versatilité. Car il y a une dimension de l'amour qu'on oublie, c'est que aimer, c'est un acte vagabond, hein, c'est Cupidon qui lance ses flèches, c'est Eros qui se pose indifféremment sur l'un et l'autre. Donc pour freiner cette tendance à la volatilité des couples, il faut que les raisons de rester avec la personne que l'on aime l'emportent sur les raisons de la quitter. Et donc la raison et le sentiment ne sont pas toujours des ennemis.
Pour terminer, Pascal Bruckner, la splendeur de la littérature, c'est regarder en face la misère humaine et en tirer une occasion de réjouissance et d'intelligence.
Oui, alors, mais il y a quand même une différence fondamentale entre le plaisir que l'on peut prendre en tant que lecteur au récit d'un beau roman d'amour malheureux, et nous adorons plus que tout les récits d'amour malheureux, parce que nous y trouvons une sorte de consolation, peut-être pour nos propres histoires. Mais il y a donc une différence entre le plaisir que nous y prenons et puis la vie que nous menons nous-mêmes. Or, si un roman peut avoir la perfection d'une œuvre d'art, y compris lorsqu'il raconte une tragédie amoureuse, la même tragédie vécue par nous-mêmes n'a pas la même tonalité. Et donc nous cherchons désespérément dans l'existence des solutions qui ne sont pas esthétiques comme celles que nous trouvons dans les romans. Les romans, comme les pièces de théâtre, comme les films, sont des catharsis. Nous y purgeons nos propres passions. Mais dans la vie, nous cherchons toujours des solutions viables. Et je pense que c'est peut-être un peu la grande différence. L'amour-passion, c'est l'exaltation de l'impossible. Hein, traditionnellement, dans toute la culture occidentale, la passion, c'est le goût de la mort. C'est le goût de l'amour qui ne trouvera jamais de solution parce qu'il disparaîtra. Et en revanche, je crois que le bonheur conjugal ou le bonheur d'être à deux, c'est l'art du possible. Et donc, moi, je plaide pour l'art du possible.
Merci d'avoir partagé votre intelligence et votre amour des mots avec nous aujourd'hui chez Filigrane. Merci de poursuivre cette soirée en notre compagnie et de signer les livres pour ceux qui le désirent, dont le dernier, donc, Le mariage d'amour a-t-il échoué, un essai paru chez Grasset par vous, Pascal Bruckner. Un très, très grand merci.